Chapitre 3. Quand les officiers anglais eurent assez vu qu'il n'y avait rien à voir, on remonta et, par parenthèse, s'il n'est pas commode de descendre, l'opération retournée est encore plus laborieuse. Heureusement, les accidents se bornèrent à quelques chutes sans gravité et à des pantalons compromis. Norton avait cru devoir sacrifier quelques instants qu'il aurait pu passer assis à l'entrée de la caverne auprès d'Acrivi, à la convenance de ne pas abandonner son monde. Il en fut quelque peu récompensé par l'effet terrible que les récits de l'énorme difficulté de l'entreprise offerts par le comte Mella à l'imagination de la belle Naxiot réussirent à produire. Le gentilhomme Corfiot en dit tant qu'au moment où il achevait la peinture de l'écrasement complet de 22 personnes, dont un pacha turc par les roches détachées de la voûte, Norton, reparaissant avec son monde, apparut comme un héros et fut reçu avec d'autant plus d'enthousiasme qu'Acrivi, tenant la perte de l'état-major, commandant en tête pour un fait consommé, se demandait déjà comment elle pourrait retourner jamais à Naxos. Elle fut si expansive dans sa joie que Norton, qui n'en soupçonnait pas la cause véritable, sentit naître en lui une vague espérance et déjà portée à surfaire ses progrès dans l'esprit de la belle au bois dormant, il commença à perdre quelque peu de son sang-froid. À dater de ce moment, il crut possible de devenir quelque chose aux yeux d'Acrivi. L'effet immédiat de son illusion fut de l'exalter, et son humeur en devint communicative et charmante. Mais il n'est pas toujours heureux d'être heureux. On tombe hors de garde, et on néglige trop les précautions en cheminant au travers des épines du monde. Quoi qu'il en soit, Henri était désormais dans cette disposition qui fait apercevoir toute chose sous un jour si brillant que longtemps après l'instant où l'on l'a senti de la sorte, on se souvient des moindres détails, des moindres accidents, des moindres faits comme des plus délicieuses apparitions que la vie entière ait pu fournir. La visite à la grotte avait pris un temps considérable, et de retour à la plage, il fallut se presser de faire des adieux au comte Mella et de retourner à bord afin d'aller trouver un dîner préparé avec toute la magnificence dont le cuisinier des officiers était capable, car à la demande de l'état-major, Norton avait consenti à accepter pour ses hôtes et pour lui l'hospitalité du carré. Le moral des officiers de marine subit par la vie de bord une double influence. Dans les premières années du service, l'ennui des longues journées monotones est heureusement combattu par l'amour du métier. Cependant, il pèse quelquefois beaucoup, et alors tout ce qui vient changer le régime ordinaire est ardemment accueilli et goûté avec transport. Plus tard, l'amour du métier n'existe plus. L'officier ne continue à servir que parce que la nécessité l'y contraint. Il est dégoûté, mais résigné, et dans cet état déplorable de l'âme qui n'est autre que l'abattement de la servitude, sans espérance, la seule consolation, l'unique adoucissement, est précisément cette monotonie morose qui, au début, était l'inconvénient de la profession. C'est pourquoi les vieux officiers ont une horreur marquée pour tout ce qui vient modifier ou interrompre le cours régulier de l'existence navale, et ils détestent le séjour des étrangers, et plus particulièrement encore celui des femmes au milieu d'eux. Cela trouble la paix de la tanière et force bon gré mal gré à penser à quelque chose. Par une fortune singulière, il n'y avait pas de vieux officiers à bord de l'Aurora, de sorte que tout sentiment répulsif du genre de ceux que je viens de décrire en était absent. Charles Scott, l'aspirant, n'était pas le seul à s'attendrir en secret sur les perfections d'Acrivi et à y pousser des soupirs. On prétendit plus tard que le vieux docteur lui-même rêva dans la nuit qui succéda à ce jour mémorable qu'il trouvait une plante nouvelle sur la plage de Milo, et qu'une voix déesse se faisait entendre et lui commandait de désigner sa découverte à l'attention des botanistes sous le nom d'Acrivia incomparabilis. En un mot, le navire de Sa Majesté britannique flottait sur les eaux tout parfumé des sensations les plus discrètes et les plus délicieuses. Soit par réaction de la sympathie générale, soit que peu à peu elle se trouva plus à son aise, Acrivia, en vérité, montrait à chaque instant aux yeux ou à l'imagination de Norton des grâces et des mérites de plus. Il s'aperçut qu'elle avait une nuance de délicatesse et d'enthousiasme dans tout ce qu'elle expliquait. Elle ne savait pas grand-chose, et pour mieux dire, elle ne savait rien, mais elle sentait bien et avec justesse, et son langage était rempli d'observations qui faisaient sourire quelquefois, mais qui plaisaient singulièrement. Elle n'allait pas chercher les petites choses. Elle courait au-devant des grandes et ne les comprenant pas toujours, elle les regardait volontiers. Norton la comparait de plus en plus aux généreuses filles de Priam. Que le soin de conduire un cheval à l'abreuvoir ou le métier de mêler le vin et l'eau dans les amphores n'humiliait nullement. Cette disposition de la fille de Naxos à l'exalter pour ces choses belles ou qui lui apparaissaient telles est une occasion naturelle de s'exercer vers le soir du lendemain. La nuit étant venue et l'air relativement obscur, bien que pénétré de la lueur générale des étoiles, étendait sur la mer une teinte bleue d'une douceur uniforme, quand on vit poindre dans l'horizon une clarté rouge comme le sang. « Mais voilà le volcan de Santorin !» dit Norton en étendant le bras. Et il regarda la jeune fille, curieux de voir la sensation qui allait se peindre sur son charmant visage. Son espérance ne fut pas trompée. L'effet produit fut instantané et sublime. Une admiration profonde se marqua dans les beaux traits qu'il examinait avec passion. Acrivie parut grandir devant la merveille offerte à sa vue. Rien de mesquin, aucune curiosité banale, aucune prétention maladroite, d'émotion factice, aucune exclamation niaisement admiratrice ne sortit de ses belles lèvres serrées. Tout fut sincère, franc, comme la cause de l'émotion était elle-même digne de l'inspirer. Il ne se peut rien voir en effet de plus complètement beau que le spectacle qui s'étala bientôt dans toute sa magnificence aux yeux des spectateurs de l'Aurora. L'obscurité empêchait d'apercevoir les terres de Santorin et des îlots avoisinants, ou du moins son voile les enveloppait si bien qu'à peine s'estompait-elle légèrement au milieu des flots, et sur ce fond de même nuance doucement sombre, s'élevait majestueusement, pareil à une théophanie, et entouré d'un limbe lumineux, le cône immense d'une montagne incandescente. Sur les pentes robustes coulaient à grandes nappes les matières ignées. C'était un manteau de pourpre qui déroulait incessamment de nouveaux plis. À mesure que l'étoffe enflammée arrivait vers la base, elle se séparait en franges qui semblaient soyeuses et la couleur, se modifiant, passait du rouge le plus éclatant aux différentes teintes d'oranger, de jaune vif et de cinabre. Quelques-unes de ces minces lénières se replongeaient beaucoup plus loin que les autres et atteignaient le pied du mont, plongeaient dans la mer où elles ne s'éteignaient pas sans avoir fait jaillir des millions d'étincelles, feux d'artifice permanents qui correspondaient d'une manière admirable avec les explosions constantes du sommet où d'immenses gerbes phosphorescentes à tout moment projetaient et faisaient tourbillonnaient des torrents de fumée opaque, bizarrement éclairés un instant et retombant graduellement dans l'ombre pour s'éclairer un moment après d'une manière nouvelle. Des mugissements terribles servaient de base constante à des détonations stridentes qui accompagnaient les émissions abondantes de la riche matière. Les uns partaient les flancs de la base des pieds, cachés de la montagne, les autres semblaient siffler dans le sommet. Tout ce spectacle était terrible comme la puissance de Jupiter. Mais si fort, si grand, si imposant, si sérieux, qu'il commandait la vénération et non la crainte. Akrivi passa la moitié de la nuit sur le bastingage, ne pouvant se détacher des émotions qui la saisissaient si puissamment. Elle ne tarissait pas en question sur les causes du phénomène, sur ses effets probables. Norton lui expliquait tout de son mieux et cherchait à lui rendre compréhensibles les résultats les plus simples des théories scientifiques. Boone n'y parvenait guère et il s'aperçut bientôt qu'Akrivi accueillait avec quelque dédain l'exposition des causes trop misérablement disproportionnées, trop humbles pour convenir aux impressions extrêmes dont son âme était possédée. Il démêla sans peine qu'elle aurait cru beaucoup plus volontiers à ses discours s'il lui avait parlé de géants coupables, ensevelis sous les eaux afin d'expier leurs crimes et soufflant leur désespoir, ou de dieux en travail pour étonner l'univers. Probablement, comme bonne chrétienne, elle eût préféré encore que tout cet appareil fût provenu de la puissance de Saint-Georges ou de celle de Saint-Dimitri. Le résultat obligé de ce désaccord entre les sentiments et les explications fut que la belle enthousiaste oublia les dernières mesures qu'elle les entendit et se composa pour son propre usage, dans le fond de sa pensée, une sorte d'idée vague, obscure, mais très convenable et très poétique de ce qu'était un volcan. Norton fut en réalité enchanté de voir qu'elle ne se démentait pas. Les caractères logiques aiment leur pareil, et l'absurde leur cause moins de peine que l'inconséquence. On dormit peu cette nuit-là, et le lendemain, au petit jour, la corvette mouillait devant Santorin, en face de la falaise dominée par la ville de Terra. Santorin n'est autre chose qu'une partie de la crête écroulée d'un ancien cratère. C'est un demi-cercle ébréché, jaillissant brusquement du sein des eaux, et qui se poursuit à l'est et au sud en une sorte de plaine inclinée qui va bientôt rejoindre l'autre rive de la mer, et qui formait jadis, à des époques antérieures à l'homme, le sommet de la montagne. L'intérieur de l'ancien gouffre a été envahi tout entier par les eaux, et il est si profond qu'au ras même de la côte, la corde trouve 60, 70 et 80 brasses de fond. Seulement, à quelques centaines de mètres, une aiguille de rocher s'est maintenue. C'est le seul point où les navires puissent jeter l'ancre. En face, à quelque distance, des éruptions volcaniques, soit antérieures, soit postérieures à notre ère, ont fait successivement surgir de petits îlots contigus. Un volcan éteint depuis quelques siècles s'élevait au milieu d'eux, quand la nouvelle commotion est venue tout à coup remuer et remanier la configuration de ce sol incertain. Tel est l'aspect général de la rade de Santorin. Quand le temps est mauvais, il est presque impossible d'aborder dans l'île, car les embarcations seraient broyées, sans rémission, contre la falaise. Ce jour-là, heureusement, rien de semblable n'existait, de sorte que le canot du commandant de l'Aurora aborda sans difficulté sur le rebord étroit servant de débarcadère. On prit des chevaux pour monter jusqu'en haut, et en suivant une route appliquée en lacets multipliés contre la roche peu solidement agglomérée et où les éboulements sont fréquents, on arrive à se hisser jusqu'à Terra après une marche d'au moins une demi-heure. Monsieur de Montcade avait là, ainsi que son ami, quelques parents à visiter. Santorin faisait partie autrefois du duché des Cyclades, Il compte, comme Naxos, quelques familles d'origine franque. Mais la destinée a traité plus favorablement le territoire pourvu de vignobles célèbres que son ancien chef-lieu. À Santorin, on est riche, on a des communications fréquentes avec Syrah, sinon avec Athènes, et des relations constantes avec Constantinople, même avec Odessa, où se vendent presque tous les vins du pays, rapprochent la population des habitudes du reste de l'univers. Il ne faudrait cependant pas se figurer de l'excès sous ce rapport. Les maisons ressemblent à celles de Naxos. Elles sont construites de la même façon et pour les mêmes besoins. Ce sont toujours de grandes salles voûtées, accompagnées d'une ou deux petites chambres, et les mêmes précautions contre l'irruption brusque des pirates, et cette façon de vivre dans une rue qui n'est qu'une cour commune. On fut reçu avec l'hospitalité aimable et affectueuse, ordinaire partout dans les îles grecques. Il fallut goûter, admirer le vin, richesse du pays, entendre les lamentations sur le sort que les exhalaisons du volcan causent aux vignes et les dangers dont il menace la santé des habitants. Car il a développé beaucoup de maladies d'yeux en remplissant l'air d'une poussière impalpable, mélange de pierres ponces et de soufre. Il fallut aussi gémir sur l'ennui des coups de vent, maîtres turbulents de cette hauteur abandonnée à toute leur furie. Et quand on eut rempli ses différents devoirs et embrassé les parents, arrière-parents et amis qui se présentèrent, on se hâta de redescendre pour aller dans les embarcations, aborder à l'autre côté de la rade. Le point principal de la visite est celui qui promettait le plus d'amusement. Tout se montra bientôt nouveau, singulier, attrayant dans cette expédition. La mer, absolument jaune et d'un jaune d'or, charriait des masses de pierres ponces. Dans le premier temps de l'éruption, on y avait vu flotter des amas de poissons morts. Les restes de petites maisons, servant pendant l'été d'établissement de bains, avaient été graduellement submergés par les flots ou engloutis sous les matières volcaniques. Un quai venait d'être achevé et désormais il plongeait sous la mer. Enfin, des pierres noires, d'où se dégageait une vapeur sulfurique, étaient en mouvement perpétuel et poussaient en dessous. Tantôt elles s'élevaient par un mouvement ascensionnel en ligne verticale, tantôt, mal étayées, elles s'écroulaient, roulaient dans la mer et élargissaient ainsi la base de l'îlot en voie de formation, qui pourrait devenir un très grand un jour s'il ne disparaît à l'improviste. Tout cela était noir comme l'encre, fumeux, brûlant, à ne pouvoir toujours y poser la main. Et alentour, l'eau était bouillonnante. Si on était tombé dedans, on s'y fût brûlé. Gravir sur le cotinier aurait été impossible. Outre que la base même en était formée de cendres brûlantes, les ruisseaux de feu s'y promenaient de toutes parts et eussent rendu l'entreprise insensée. Mais il y avait moyen d'aller considérer le géant d'assez près, en montant jusqu'au sommet de l'ancien cratère qui lui faisait face. C'est ce que Norton proposa immédiatement aux hommes. Akrivi se sentit le courage si haut que sa nonchalance habituelle ne réclama même pas, quand elle supplia son père et son parrain de lui permettre de les accompagner. On se mit donc en route tous ensemble. Akrivi s'appuyant dans les passages plus difficiles sur ses deux guides naturels, quelquefois acceptant l'aide que Norton, toujours à son côté, était prêt à lui donner. Quelquefois aussi dispensant, sans y penser, cette faveur à Charles Scott, qui en savourait la douceur jusqu'au fond de son âme. Cette ascension n'est pas ce qu'on peut appeler pénible, mais elle est fatigante, parce que jusqu'aux deux tiers de la hauteur, on marche dans les cendres fines et mobiles, où le pied s'enfonce profondément. La pente est semée de quelques arbustes buissonneux, où l'on pourrait se retenir si l'on venait à glisser, et on ferait bien d'user de cette précaution, car la montagne, de même que la falaise de Théra, plonge immédiatement dans une mer profonde. On n'oublie pas, en outre, que sur ce point, l'eau est brûlante. Quand on a gravi la zone incinérée, on a des pierres plates à franchir, puis des aiguilles pointues à contourner, et on se trouve alors sur un vaste plateau, tourmenté, rempli de creux, de fissures, de trous, d'où sortaient jadis les déjections volcaniques. Ici, tout est brûlé, rôti, marqué de plaques rouges ou jaunes, bouleversé de mille manières. Les rochers bousculés, jetés les uns sur les autres, présentent les restes brutaux d'une scène de violence inouïe. Les fragments, en gros et petits, de soufre natif couvrent le sol, et comme pour montrer que tout n'est pas fini et que ce qui a été pourrait bien arriver encore, ça et là, au revers d'une paroi calcinée, sort menaçante et sombre une colonne épaisse de fumée dont les flocons vont se perdre dans le bleu de l'atmosphère. Mais on avait d'autres choses à voir que le passé et l'avenir. Les splendeurs du présent s'étalaient vivantes et turbulentes à quelques toises de distance en face même du plateau. En se penchant sur le bord septentrional, on se voyait surplombant au-dessus d'une grande vallée pareille à quelques profondeurs d'enfer, grise, sombre, démontée de toutes parts, ombragée par le reflet sinistre de grandes ombres que projetaient aux alentours, le panache de fumée balancé sur le sommet du volcan tout voisin et opérant librement en face de ses œuvres. On le voyait à chaque seconde se crevasser et s'ouvrir à de nouveaux courants de feu. Le bruit était si épouvantable qu'il fallait se parler, ou plutôt se crier mutuellement dans les oreilles pour parvenir à s'entendre. Et encore, quand le monstre prenait sa voix de tête, était-on forcé d'attendre qu'il eût fini ses exclamations. À chaque instant, il lançait au hasard des volées de pierres ponces, de pierres à demi calcinées, de cailloux tirés du fond de ses entrailles. Il fallait se dire en garde contre cette meurtrière libéralité. Rien de plus imposant et de plus majestueux. Des heures s'écoulèrent dans cette contemplation. De même qu'un rêveur assis sur une plage attend constamment qu'une vague succède à une autre vague et ne s'aperçoit pas de la fuite du temps, de même ici, Acrivi, Norton et la majeure partie de leurs compagnons ne se pouvaient lasser de voir les puissantes explosions déployer leurs colonnes immenses et faire tomber au large leurs pluies de projectiles. Et quand une crise était finie, ils attendaient l'autre. Il faut dire cependant que quelques-uns des officiers, plus prosaïques, avaient déjà décidé M. de Montcade à descendre avec eux longtemps auparavant, et que ce groupe de gens positifs fut retrouvé plus tard, assis à l'abri d'un buisson, à proximité du canot, et mangeant avec une vive satisfaction du plum cake arrosé de jeune beurre. Enfin, tout fini, il fallut s'en aller. Norton pensa avec chagrin que peu d'heures allaient s'écouler, qu'on reverrait Naxos, qu'Acrivi retournerait dans sa maison au milieu des lauriers roses, et que lui, avec l'aurora, s'en irait continuer à vivre comme il avait vécu jusqu'alors, emportant un souvenir qui lui rendrait tout pénible en lui faisant sentir, plus encore que par le passé, les côtés fastidieux de son existence. Il avait réussi, en examinant ses impressions d'Antiparos et par la confiance plus grande d'Acrivi, à multiplier les raisons qu'il avait cru avoir d'être si long aimé, du moins remarqué. Norton n'était pas un fat et ne se laissait pas aller volontiers aux suggestions de ce genre d'amour-propre. Se croyant distingué, quand il aimait, et comparant ce qu'il supposait être l'état de l'âme de la jeune fille à l'idée qu'il se faisait de son caractère, dont il était aussi épris que de sa personne, il se décida, après une mûre délibération, à une demande qui portait au plus suprême degré le caractère du romanesque par la circonstance aggravante de la préméditation. Un Anglais seul est capable de ces choses-là, et pour bien apprécier ce que fit Norton, il faut comprendre qu'il ne cherchait qu'à mettre en pratique les goûts de beaucoup de ses compatriotes. Dans les pays les plus lointains du globe, et préférablement dans les plus excentriques, on est presque assuré de rencontrer un de ceux-ci, établi bravement au sein de la solitude la plus complète que les circonstances locales ont pu lui permettre de trouver. Rarement ce solitaire est un homme du commun. Le plus ordinairement, c'est une personne du monde, bien née, bien apparentée, ayant eu souvent, ayant encore, une grande fortune. Généralement, c'est un militaire, un légiste ou un marin. Toujours, c'est un esprit cultivé, aux habitudes élégantes, qui se sont résumées en un besoin de simplicité presque barbare, mais jamais vulgaire. En réunissant des souvenirs, je pourrais dresser une liste de ces déserteurs du beau monde. J'en ai connu un à l'extrémité de la Nouvelle-Écosse, dans les forêts voisines de Sydney, un autre dans les montagnes de la Mingrélie, non loin de Cootahies, un troisième dans la contrée tout à fait sauvage, située au nord-est de la Grèce, vers la frontière turque. Et j'en pourrais citer beaucoup dans des pays moins extraordinaires, mais tout aussi déserts et moralement aussi distants de la société britannique. Je conclus en répétant que ce goût pour l'exil et le renoncement est si fortement prononcé chez cette race à personnalité puissante qu'il atteint même les femmes. Lady Esther Stanhope et Zante n'ont pas été seules à préférer soit le désert des Arabes, soit Damas à l'habitation continue des salons. Norton était donc en plénitude de ses facultés anglaises et voyait Acrivi assis dans un grand fauteuil sur le pont, et pour un moment isolé, il prit place à côté d'elle et lui dit gravement « Mademoiselle, je vous aime et je voudrais savoir de vous si je puis espérer que vous partagerez ce sentiment. » Acrivi le regarda avec une douceur charmante et lui répondit « Oui, monsieur, certainement, je vous aime beaucoup. » Norton se méfia singulièrement de l'extrême facilité de cette déclaration qui, faite si vite et sans le trouble le plus léger, ne lui parut pas du tout comporter ce qu'il voulait. Il insista d'un air convaincu. « Je vous remercie infiniment, mademoiselle. Je voudrais pourtant savoir si vous m'aimez assez pour me permettre de demander votre main. » Et comme Acrivi faisait un geste pour lui tendre la main en souriant, il vit clairement qu'elle n'avait pas rien compris, et il ajouta « C'est-à-dire pour vous demander de devenir ma femme. » « Oh non !» répondit brusquement Acrivi. Et alors elle rougit profondément. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle se leva et descendit dans la chambre. Norton resta sur ses pieds, en face des débris de son château de cartes. Le coup était rude et le commandant ne s'y était pas attendu. Mais ce sont les moments de crise qui mettent en leur jour les grands caractères. Il envisagea gravement sa situation. « Si elle m'aimait, se dit-il, elle ne saurait pas ce que j'aime en elle, la fille de l'Antiquité, de la vie simple, étrangère aux orages du sentiment. Acrivi ne doit aimer que ses parents. Son mari et ses enfants, au-delà, le monde n'existe pas pour elle. Je me suis laissé égarer dans les maudites routes de mon éducation moderne. Allez, revenons au vrai. » L'épreuve où je viens d'échouer, loin de me détacher de ma résolution, doit m'y confirmer davantage, car je vois plus que jamais à quel point le trésor découvert par moi est pur et sans mélange. Bon, je ne prétends pas chercher les agitations d'une tendresse à l'européenne. Ce sont les éléments d'une vie spéciale que je recueille. Ma faute serait irréparable si je n'entrais de suite dans la bonne voie. Voyant sur le pont M. Frangopoulo et M. de Moncade qui se faisaient expliquer la manière de pointer un canon, il alla vers eux et leur demanda un moment d'attention. Sa figure était grave et ses deux amis composèrent immédiatement les leurs à son exemple. « Messieurs, leur dit-il, j'ai l'intention de quitter la marine dans un délai très prompt. Naxos me plaît, je m'y fixerai. Probablement je m'y occuperai de quelque établissement agricole. En tout cas, j'y résiderai d'une manière définitive. Mais comme il n'est pas bien que l'homme soit seul, je désire me marier. Une femme étrangère ne s'accoutumerait peut-être pas aisément dans ma nouvelle patrie. Je préfère donc épouser une fille du pays. Et si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vous serais obligé de m'accorder la main de mademoiselle, votre fille et filleule. » Ce petit discours fut débité du ton le plus froid. Monsieur de Moncade ouvrit de grands yeux. Monsieur Frangopoulo se redressa d'un air digne, et contrairement à ce qui arrivait dans l'ordinaire de la vie, il ne laissa pas son ami prendre la parole, mais répondit ainsi lui-même au commandant. « Monsieur, je suis flatté de votre proposition et je vous en remercie au nom de ma famille. Mais je dois vous faire remarquer que ma fille n'a aucune dot. Et pourtant, notre naissance nous impose certains devoirs dans nos alliances et beaucoup de précautions. Bon, je ne doute pas de votre mérite. Je n'ai aucune espèce d'hésitation, vous pouvez croire, quant à votre honneur. Mais je ne connais pas du tout votre respectable famille, et je serais peiné qu'il y eût dans sa condition passée tels obstacles à votre projet que toute ma bonne volonté ne pourrait vaincre. En un mot, monsieur, nous sommes des gentilshommes, et ma fille n'épousera qu'un homme de notre rang. » L'assentiment de Norton à cette déclaration ne se fit pas attendre une minute. Il était fort content de la tournure que prenait sa négociation. Son futur mariage, en cas qu'il réussît, bien que désiré par l'amour le plus enthousiaste, était traité avec la roideur, le formalisme et l'absence de toute manifestation extérieure de sensibilité qui sont assurément les premiers éléments des convenances et leur triomphe. « Je suis disposé, monsieur, répondit-il à M. Frangopoulo, avec la sécheresse convenable, à vous offrir sur ma famille et sur moi-même les renseignements que vous êtes en droit de me demander. Et si vous voulez bien jeter les yeux sur quelques documents et ensuite délibérer entre vous, je serai heureux d'avoir votre réponse ce soir même, car nous allons arriver à Naxos que voici en vue. Il me paraît à propos de connaître votre résolution dernière. » Cela dit, le commandant exposa brièvement sa position sociale et la justifia par un passage du Peerage and Baronetage of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. Ensuite, il apporta le Navy List, où son nom figurait entre la désignation de son grade et celle du bâtiment qu'il commandait et où se passait l'entretien. Il avait fort bien remarqué qu'on ne lui avait pas dit un mot de sa fortune. Il voulut éclairer ce point, mais on ne parut pas y attacher beaucoup d'importance, et les deux arbitres de son sort se retirèrent pour délibérer. Pendant ce temps, il se promena sur le pont, les mains derrière le dos. L'attente ne dura pas plus d'une demi-heure. Après quoi, M. de Moncade vint lui annoncer que la main d'Acrivi lui était accordée et que M. Frangopoulo était descendu dans la chambre pour informer sa fille de la résolution prise à son égard. Il se passa encore un peu de temps. Puis M. de Montcalm, étant allé voir où en étaient les choses, remonta et pria Norton de venir jouir de son bonheur. Il était accepté, nouvelle charmante qu'il reçut avec le flegme le plus digne. Retrouvant Acrivi, il vit des larmes sur ses joues. Il lui serra la main. Vous ne m'aimez pas? Ce n'est pas cela, lui dit-elle en secouant la tête. Mais j'aurais mieux aimé que vous fussiez Hélène. Ce qui arriva ensuite n'a pas besoin d'être raconté. Le mariage fut fixé à quelques mois de là. Norton devait prendre le temps de rendre son commandement, de donner sa démission et de revenir à Naxos. Toutes ses affaires furent terminées plus tôt encore qu'il ne l'avait espéré. Il était marié depuis 8 jours, quand il entendit le bruit d'une vive altercation entre Triantafylon et Alcrivie. Celle-ci soutenait à sa belle-sœur que les Anglais étaient d'aussi bons marins que les Hellènes. Et comme les raisons pour prouver son désir lui manquaient, elle répétait avec constance: « Mais je suis anglaise, moi! » Et il mettait infiniment de fierté. Chère fille de Priam, se dit Norton, elle commence à comprendre qu'elle a un mari. Acrivi apprit sa nouvelle langue très promptement. Elle apprit encore d'autres choses, lut un peu, mais ne s'attacha à rien de tout cela. Son mari lui fit faire un voyage en Angleterre. Elle fut très bien reçue avec tous les honneurs dû à une belle singularité. Il lui arriva même, dans un château du Yorkshire, où elle fut invitée, une sorte d'aventure bien propre à lui faire comprendre tout son mérite. Un délicieux jeune homme lui avoua la vérité vraie sur lui-même. Il passait les nuits à pleurer le triste sort d'une femme si supérieure, unie par un destin toujours barbare et aveugle, un homme incapable de la comprendre. Il n'est pas sûr, en effet, qu'Acrivi comprit très bien Norton, mais il est incontestable qu'elle comprit encore moins le délicieux jeune homme. Et elle s'ennuyait tellement en Angleterre et d'une manière si visible que Henri, ne s'y amusant pas beaucoup lui-même, la remena tout droit à Naxos. Aujourd'hui, elle a 2 enfants charmants qui jouent dans les orangers. Elle ne les perd pas de vue et tient pour non moins certain que l'Évangile la supériorité absolue de son mari sur le reste de la chrétienté.